Voilà, avec ce beau temps de louange que nous venons de passer, de célébrer, nous sommes centrés sur Jésus. Et je crois que c'est ça l'important, c'est que nos vies soient centrées sur le Christ. Et j'invite Nicolas maintenant pour le message. Notre pasteur, que j'aimerais prier pour que le Seigneur lui donne toute autorité. Seigneur, merci pour Nicolas, merci pour l'onction qui est sur lui. Merci pour tout ce que tu lui as mis sur son cœur. Te demandant que ce matin, nos cœurs aussi à nous soient réceptifs, ouverts à ta voix, à ta parole. Tu vois que nous explorons le livre d'Exode. Et Seigneur, nous savons que au travers de ce livre, tu peux aussi nous parler, nous encourager, nous exhorter. Et Seigneur, au travers de la bouche de Nicolas, tu veux aussi nous parler. Nous te demandons de le bénir, de lui donner oui, la sagesse. Merci Père de pouvoir être disponible dans ta main. Amen.
Amen. Cette icône qui a été découverte au monastère de Sainte-Sophie, date du VIe siècle, et au fait montre la double nature divine et humaine de Christ. Un côté du visage montre son humanité, et l'autre côté, sa divinité. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre série basée sur l'Exode. Et le groupe Louange a été vraiment inspiré, j'ai l'impression que les chants qu'on a chantés ont déjà tout dit. J'aurais presque pas besoin de parler. Alors, évidemment, ça marche pas. Ah, je l'ai allumé, ouais. Est-ce qu'il y a un problème de... Ok, on réessaye. Bon, autrement, je te laisserai faire toi le... Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ces deux images? Solarium, oui, et puis... l'image est un peu trop claire, on ne voit pas super bien, mais qu'est-ce que cette personne va mettre dans son café? Ouais, voilà, je ne vais pas citer la marque, mais c'est du faux sucre, de l'aspartame, un truc du style. Qu'est-ce que ces deux choses ont en commun? Enfin, si quelqu'un veut répondre à haute voix. C'est artificiel, ouais, effectivement. Alors, ouais, tu peux tourner la dia. C'est en effet deux substituts artificiels créés par l'homme pour des choses que Dieu a lui-même créées. Puis ces substituts sont des pâles copies de la réalité. On voit cette magnifique plage au soleil, ce sucre brun naturel. Et bien sûr, ces succédanés n'apportent pas la même satisfaction que la chose véritable. En fait, ils sont même nocifs. J'ai vu juste en cherchant les images et je suis tombé sur des pages qui disaient que le solarium, au fait, provoque une dépendance, que le faux sucre, au fait, ça c'était un article dans Nature, ou je ne sais plus, dans une revue scientifique, il disait que le faux sucre provoque encore plus de diabète que le vrai sucre. Donc voilà, non seulement ça n'apporte pas satisfaction, mais en plus c'est mauvais pour nous. Alors moi aujourd'hui, j'aimerais pas parler de solarium et d'aspartame. J'aimerais parler de quelque chose qui est aussi un succédané, un ersatz de la vraie chose, auquel nous avons parfois recours dans notre vie. Ce succédané, il est bien plus grave cependant, parce que cette création humaine ne fait pas que remplacer une création de Dieu, cette création humaine remplace la présence même de Dieu. Alors, on va lire maintenant dans... Ouais, tu anticipes bien mes gestes, je lis. Dans Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. » Aaron leur dit « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. On peut passer au suivant. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et fit un torillon de métal fondu. Puis ils dirent « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le torillon et s'écria « Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Qu'est-ce que les Israélites sont en train de faire avec ce veau d'or ? Est-ce que vraiment ils croient que c'est cette statue qu'ils viennent de former, qui les a fait sortir d'Égypte ? Pour comprendre ce qui est en train de se passer avec le veau d'or, il faut qu'on regarde brièvement le contexte du livre de l'Exode et aussi le contexte culturel de l'époque. Alors on peut passer au slide suivant. Ah, il y a une flèche qui a disparu, mais c'est pas grave. Vous vous rappelez peut-être ce schéma qu'on a déjà vu deux fois dans les prêches précédents, qui nous rappelle les étapes clés du livre de l'Exode. Dans les chapitres 1 à 18, Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il les a amenés jusqu'au pied de la montagne du Sinaï. Et dans les chapitres 19 à 24, il fait alliance avec le peuple. Dans la dernière partie, qui est presque la moitié du livre, Dieu est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que sa présence puisse résider de manière permanente dans le peuple d'Israël. Et ensuite, ces prescriptions vont être mises en pratique. Alors, les chapitres qu'on est en train d'étudier se trouvent exactement au cœur de cette dernière partie qui parle de la présence de Dieu. Dans les chapitres 25 à 31, Dieu donne toutes les instructions, tout ce qu'il faut faire pour que sa présence puisse résider parmi eux. Puis de 35 à 40, comme des fois on le voit dans l'Ancien Testament, ils répètent tout mot à mot pour bien montrer qu'ils mettent tout en pratique. Et puis, tout à la fin, la gloire de Dieu vient remplir le tabernacle. Donc le but est atteint. Vous voyez qu'il y a un petit trou de trois chapitres là au milieu. Et ça, c'est un petit intermède discordant dans l'histoire. Et si on prenait plutôt un suquet d'année ? Se demandèrent les Israélites. Donc, on voit que ce que les Israélites sont en train de faire avec ce veau d'or a un lien très fort avec la présence de Dieu. Mais on n'est pas encore très sûr d'avoir compris exactement comment c'est lié. Alors, pour mieux comprendre, j'aimerais vous faire donner juste une ou deux explications par rapport à l'utilisation des idoles à l'époque de Moïse. Et puis, pour qu'on puisse comprendre ça, il nous faut sortir un petit peu d'une sorte de condescendance que nous, en tant qu'Occidentaux, depuis le siècle des Lumières, on a tendance à avoir avec les peuples anciens. Les Grecs, ils utilisaient des idoles, ils avaient des idoles dans leurs temples. Mais il faut se rappeler que ces mêmes Grecs avaient découvert qu'il y a un nombre infini de nombres premiers et ils avaient donné la démonstration de ce fait. Ils avaient aussi axiomatisé la géométrie. « ces Grecs-là utilisent des idoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les Hébreux qui ont construit ce veau d'or, c'est eux qui ont découvert le monothéisme. C'est eux qui l'ont découvert. C'était inconnu de tous les autres peuples de la terre. C'est eux qui vont pouvoir dire une phrase où le sujet, c'est un verbe conjugué à la première personne. Dieu dit à Moïse, tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé à vous. Il faut déjà avoir quand même, être assez intelligent pour être capable d'exprimer ce genre de phrase et de l'écrire. Alors, ne sous-estimons pas ces peuples. Au fait, les anciens ne croyaient pas que les idoles étaient des dieux en soi. Les dieux grecs, ils vivaient où ? Ils vivaient dans l'Olympe, ils ne vivaient pas dans leur temple. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une idole dans le temple ? Pour les anciens, au fait, l'idole, la statue, c'est l'interface qu'il y a entre le dieu et les hommes. C'est le point de connexion. Autrement dit, c'est le lieu de la présence du Dieu sur la terre. Alors, ça nous aide maintenant à comprendre ce qui est en train de se passer. On est dans la partie de l'Exode qui parle de la présence de Dieu. Tout est en train d'être fait pour qu'elle puisse être dans le peuple. Et là, au milieu, les Israélites construisent ce veau et ils disent « c'est ce veau qui nous a fait sortir d'Égypte ». Ils ne sont pas en train d'adorer un nouveau Dieu, ils sont en train d'adorer Yahvé, au travers de cette statue. Autrement dit, ils sont en train de chercher à domestiquer la présence de Dieu, la rendre moins menaçante, la rendre plus facile à contrôler. Le problème, c'est que la présence de Dieu ne se domestique pas comme un ruminant. Si on cherche à domestiquer, le résultat, c'est qu'on la remplace par autre chose. Le psalmiste, au psaume 106, dira « Ils ont échangé la gloire de Dieu contre l'image d'un bœuf qui mange de l'herbe. » Et en effet, le résultat final de l'épisode du veau d'or, c'est que Dieu décide non pas d'abandonner son peuple, ils sont toujours en train d'adorer Yahvé, pas un autre Dieu, mais ce qu'il décide, c'est de retirer sa présence. C'est ce que nous allons lire maintenant. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, et monte vers la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en leur disant, c'est à ta descendance que je la donne. » J'enverrai devant toi un ange, je chasserai le Cananéen, l'Amorite, le Hittite, le Périsite, le Hivite, le Jébusite. Monte vers le pays ruisselant de lait et de miel. Ok, waouh, tout va bien. Magnifique. Dieu respecte son alliance avec Abraham. Mais il y a un petit mais. Je ne peux pas y monter au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide, et je t'exterminerai en chemin. Donc Dieu reste fidèle à sa promesse avec Abraham. Par contre, le niveau supérieur d'intimité que l'alliance du Sinaï avait introduit, il revient en arrière. La question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est « Et nous ? Est-ce que nous avons pleinement accueilli la présence de Dieu parmi nous, dans nos vies personnelles, dans la vie de la communauté ? Ou bien est-ce que, pour différentes raisons, comme les Israélites autrefois, nous avons cherché à la domestiquer et donc inévitablement à la remplacer par autre chose. Lors de notre week-end d'église, une personne de la communauté, Simone Burkhardt, nous a partagé une image qu'elle avait reçue. Et cette image, il est vrai, est sombre, redoutable. Et elle a perturbé beaucoup d'entre nous. Alors, avec le conseil pastoral et le groupe d'écoute prophétique, on a décidé qu'on allait reprendre ça et chercher à discerner qu'est-ce que ça signifie. Il y a aussi eu Antoinette Duvoisin, une ancienne parmi nous, qui a 91 ans, qui, comme le prédit Joël 2, a eu un songe. Et ce songe a directement un rapport avec cette image. Donc cela va nous aider. J'aimerais maintenant vous apporter les conclusions de ce travail de discernement, d'interprétation. Alors, l'image était la suivante, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Nous étions enfermés derrière une porte de château fort. Donc, il faut vous imaginer que vous n'êtes pas à l'extérieur à regarder cette jolie porte. Vous êtes à l'intérieur et il fait sombre. Et on voulait sortir. Mais on n'arrivait pas parce que la porte était fermée. Dehors, il y avait une magnifique esplanade blanche, lumineuse. Alors, voici l'interprétation que nous en avons. Tout d'abord, j'aimerais faire remarquer que, comme dans notre passage de l'Exode, il s'agit d'une question communautaire, pas juste individuelle. Que nous le voulions ou non, nous sommes liés les uns aux autres. Et puis, c'était un week-end d'église qui était axé sur la mission. Donc à la base, on s'est dit « Ah oui, on aimerait sortir de nos murs pour aller en mission, puis on n'arrive pas. » Alors, on pense qu'il y a une partie qui tient à ça, mais cette image parle de quelque chose de plus profond. Cette esplanade blanche qui est de l'autre côté de la porte, c'est la présence de Dieu. Ou autrement dit, c'est la pleine vie de foi communautaire que Dieu nous appelle à vivre. La porte, c'est le point de contact avec cette présence. Imaginez-vous, là on n'a pas une porte fermée, mais une porte en général, ce n'est pas verrouillé. C'est utile une porte. Ça sert à passer d'un endroit à un autre. Une porte, c'est un passage. Bon, il s'avère là que le passage est fermé. Je vais vous parler tout à l'heure de la clé qu'on perçoit pour l'ouvrir. Qui va l'ouvrir ? Et pour l'instant, j'aimerais réfléchir avec vous de qu'est-ce que ça veut dire que l'accès à la présence de Dieu est fermé. Cette porte est fermée à cause du veau d'or, de la tentative de domestiquer la présence de Dieu. Souvenez-vous, le veau d'or, ce n'est pas adorer un autre Dieu. Le veau d'or, c'est adorer Dieu au travers de quelque chose qui n'est pas sa présence, mais quelque chose que nous-mêmes nous créons, qui est sous notre contrôle. Alors on se rend bien compte que ça ne fait pas de sens de remplacer la chose véritable par un succédané. Puis on sent probablement au fond de nous-mêmes cette insatisfaction. Alors pourquoi est-ce que nous avons dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, une tendance à remplacer la chose véritable par un succédané? Je propose qu'on revienne... les flèches sont déjà là, c'est pas grave. Je propose qu'on revienne aux membres de notre même peuple qui ont vécu il y a 3500 ans en arrière, parce que je pense que ce qu'ils ont vécu nous concerne. Qu'est-ce qui les a amenés, eux, à construire ce veau d'or? Alors, essentiellement, c'est un manque de confiance en Dieu et un désir de contrôler sa présence. Ceci s'exprime de trois manières et cela va nous aider à réfléchir à notre propre vie et notre propre communauté. Premièrement, on voit des situations où Dieu n'agit pas aussi vite ou pas comme les Israélites voudraient. Quand ils souffrent de la soif dans le désert, ils disent « Est-ce que Yahvé est parmi nous, oui ou non ? Est-ce que sa présence est parmi nous, oui ou non ?» Ils doutent de sa présence. Ils ne sentent pas sa présence. Pourtant, Dieu vient de faire des choses miraculeuses. Donc, c'est une forme d'apathie ou d'amnésie. Ça veut dire qu'on est constamment en train d'oublier que la présence de Dieu est avec nous ou que... que simplement d'accepter aussi, comme le chant le dit, de bénir l'Éternel quand on est dans le désert ou quand on est dans l'abondance. Donc à cause de l'impatience, de l'incrédulité, peut-être de l'amertume qui s'est installée, on a cette tendance à remplacer la présence de Dieu par une forme qui est toujours sous la main. Hein, le veau d'or, ben, il est toujours là, il ne va pas disparaître tout d'un coup. Bien, tout d'un coup, on ne va pas avoir l'impression qu'il n'est plus là. Alors, on peut réfléchir pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie personnelle ou communautaire qui fait qu'on a une espèce de présence artificielle de Dieu qui est avec nous, sous la main? Alors, la deuxième chose, c'est la situation inverse. Israël se trouve devant la présence de Dieu. Dieu agit de manière hyper puissante et ils sont terrifiés. Et ils disent à Moïse, non, on ne veut plus que Dieu il nous parle, c'est toi qui vas aller lui parler, puis tu nous diras, nous on va mourir autrement. Il y a une peur qui s'installe chez eux face à la présence de Dieu. La peur de la présence de Dieu, elle peut être liée à des blessures, un désir de vouloir vivre sa vie de manière indépendante, un rationalisme qui ne peut pas accepter cette présence du Dieu transcendant dans notre monde, à une forme d'orgueil, enfin à l'indépendance c'est lié. Alors comme on a peur de la présence de Dieu, on préfère la remplacer par quelque chose qu'on peut contrôler. Troisièmement, on voit régulièrement Israël qui dit nous, on préférerait retourner en Égypte, on était mieux là-bas. Le veau d'or, d'ailleurs, c'est la manière des Égyptiens d'adorer leur Dieu. Ils ont des idoles comme interface avec leur Dieu. Les Israélites préfèrent le confort matériel de l'esclavage et le confort spirituel de l'idolâtrie qu'ils ont vécu dans leur société environnante, l'Égypte. Alors nous-mêmes, on est baignés dans notre société. Donc il y a une forme d'héritage inconscient de comment la société autour de nous vit et considère Dieu. Et puis il y a aussi des fois peut-être une forme de séduction où on est attiré par leur manière de faire. Alors ceci peut nous mener à avoir une forme d'adoration de Dieu qui est adaptée à la société. Le résultat de tout cela, nous dit notre passage, c'est un durcissement du cœur. Dieu dit, vous êtes un peuple à la nuque raide. Donc cette porte fermée, c'est une nuque raide, c'est un cœur qui est endurci devant la présence de Dieu. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là pour Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Israël s'est repenti dans la contrition, dans le dépouillement de ses bijoux, pas des bijoux spirituels. Mais... Moïse a pris le veau d'or, il l'a brûlé, réduit en poussière. Puis il a intercédé pour son peuple. Et alors Dieu est revenu sur sa décision et a fait grâce. Il a dit à Israël, « Ma présence ira avec toi. » Pour être précis, il dit « Ma face ira avec toi et je t'accorderai le repos. » Ma présence ira avec toi et je t'accorderai le repos. Puis Moïse, il ne s'arrête pas là, il demande encore plus. Il dit « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu dit « Tu ne peux pas voir ma face directement sans mourir, mais je vais passer devant toi et je vais te protéger avec ma main. » Pour notre communauté, les choses ne s'arrêtent pas non plus à une porte fermée. C'est la conviction que nous avons. Et cette conviction nous a été donnée par plusieurs choses qui ont été reçues. Aïe, bon, voilà, c'est... L'image est trop saturée, mais ce n'est pas grave. Je vais expliquer. Il faudrait par contre qu'on revienne au... Peut-être... Bon, je te laisse faire. Hein. Antonine Duvoisin a eu une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah, magnifique, quel pro. Et puis, elle nous a fait une petite esquisse de sa vision. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Elle voyait notre église un dimanche matin, et à la place de la porte de l'église, il y avait une porte ogivale de château fort. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. En métal, un truc bien lourd. Impossible de la traverser. Et il y avait trois femmes devant cette porte, qui voulait rentrer, et elle donnait des coups de pied dans la porte. Et Antoinette est arrivée là, et elle leur a dit, mais Qu'est-ce que vous faites à donner des coups de pied dans cette porte? C'est dimanche matin, la porte, elle va s'ouvrir toute seule. Et à ce moment, la porte commence à s'ouvrir lentement. Et ces trois femmes voient de la lumière à l'intérieur, elles disent « Ah, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre la lumière !» Et puis Antoinette leur dit « Mais non, c'est la lumière du soleil qui passe au travers des vitraux. » Magnifique image. Et avec cette image, peut-être qu'on peut passer au slide suivant. Je vais revenir après sur l'image. Elle a reçu ce passage, qui est un passage qui est plein d'espoir. « Ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David. Hein, » c'est le Messie, le Christ glorifié. « Qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je sais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu n'as que peu de force et pourtant tu as gardé ma parole. » Et tu n'as pas renié mon nom. On peut peut-être revenir maintenant à l'image. Oui. Alors, cette image nous dit que c'est Dieu qui est en train d'ouvrir cette porte gentiment. Hein. Mais il nous semble qu'il y a aussi une participation de notre part pour contribuer à cela. Mireille Rubly voyait une porte dans la croix. C'était une toute petite porte. Comme c'était une toute petite porte, il fallait se courber pour pouvoir y rentrer, s'humilier devant la croix. Et ce qu'elle recevait aussi, c'est que ce qui nous rend capable d'avoir cette humiliation, c'est de laisser entrer Jésus dans notre propre porte pour qu'il vienne toucher notre cœur. Moi, l'image que je voyais, c'est que je nous voyais exactement dans cette image de Simone Burkhardt, derrière cette porte fermée dans le noir, à taper, à vouloir sortir. Et puis, tout d'un coup, on a vu une lumière au fond qui s'avançait, et c'est Christ qui porte un cierge, qui marche au milieu de nous. Et on s'est tous calmés, on s'est tournés vers lui, on l'a laissé passer devant nous, et lui, il est arrivé, clac, il a ouvert la porte. On a été ébloui d'ailleurs par la lumière qui est alors apparue. Comme je l'ai dit, la porte, c'est finalement l'accès que nous voulons avoir à Dieu. Si nous voulons accéder à lui au travers d'un veau d'or façonné de nos peurs et de nos désirs de contrôle, alors nous restons en dehors de sa présence, la porte est fermée. Mais la porte est déjà en train de s'ouvrir toute seule. Dieu fait grâce avant même qu'on fasse quoi que ce soit. Et il n'y a qu'un seul accès à Dieu, c'est Christ. Christ a le pouvoir d'ouvrir cette porte. Et il a commencé à le faire. Non seulement il l'ouvre, mais il la transforme pour que ce ne soit plus une porte de château fort, mais que ce soit un passage vivant, le passage de la grâce. Grâce pour rentrer, c'est le « vient », grâce pour sortir, c'est le « va ». Ce que Dieu désire, ce n'est pas que nous nous sentions dans la culpabilité. Ce qu'il désire, c'est la repentance qui mène à la vie. S'ouvrir à la présence de Dieu, avoir un cœur qui est malléable à sa présence, c'est entrer dans la repentance, l'humilité, la gratitude, la confiance. C'est tout ce qui est à l'opposé de ce manque de confiance, de ce désir de contrôle. Autrement dit, c'est recevoir sa grâce, recevoir son repos. Il répondit, « Ma présence ira avec toi et je t'accorderai le repos. » Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Nous croyons qu'à la suite d'Israël, nous sommes appelés à nous repentir dans la contrition et le dépouillement. Et donc à abandonner ce par quoi nous avons remplacé sa présence dans nos vies personnelles et communautaires. À redonner notre confiance à Dieu, à recevoir sa grâce. Nous croyons aussi que suite à Moïse, nous sommes appelés à intercéder pour que cette présence de Dieu revienne pleinement parmi nous, par le Saint-Esprit. Et nous croyons qu'à la suite de Moïse, nous sommes appelés à aller encore plus loin, à désirer voir la face de Dieu. On peut passer... Voilà. La face de Dieu. Dieu a déjà révélé son visage sous le couvert de l'humanité de Christ. C'est quelque chose que nous allons expérimenter pleinement à la fin des temps. Dans l'Apocalypse, nous lisons « Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. » C'est quelque chose que nous pouvons expérimenter déjà maintenant de manière partielle. Le Saint-Esprit, en effet, et la gloire du Père parmi nous. Et il nous unit à Christ, dont le visage est la face même de Dieu. Je terminerai par ces paroles de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur, pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur le visage de Christ. Alors, maintenant, j'ai terminé de mon prêche et j'aimerais vous proposer aussi avec l'aide de Claude un moment de prière communautaire. Alors, on peut passer le... Voilà. J'aimerais vous proposer qu'on passe au travers des trois étapes que Israël a vécues. Premièrement, ils ont vécu un temps de repentance. Ensuite, il y a Moïse qui a intercédé pour que Dieu redonne sa présence pleinement. Et finalement, il a voulu voir la gloire de Dieu. Toute cette démarche, ne la vivons pas dans la peur ou la culpabilité. Nous la vivons parce que nous savons que c'est Christ lui-même qui ouvre la porte et que son désir, c'est simplement d'avoir plus d'intimité avec nous. La repentance, ce n'est pas une culpabilité mortifiante, c'est simplement reconnaître nos dysfonctionnements comme tels devant Dieu, y renoncer et s'engager à suivre Christ. Le sujet que nous avons à cœur aujourd'hui, c'est notre tendance à vouloir remplacer la présence de Dieu par quelque chose que nous pouvons contrôler, que nous avons créé nous-mêmes. Alors, on peut passer à... Je vais remettre cette diapositive pour vous donner quelques exemples, pour avoir des exemples en tête. Mais on va maintenant prendre un temps de silence et on va simplement appeler Dieu à nous parler aussi de manière directe. Est-ce que nous avons tendance à oublier qu'il est là? Est-ce que nous avons tendance à avoir peur qu'il vienne là de manière trop puissante pour nous? Est-ce que nous sommes contaminés par l'état spirituel de la société qui nous environne? Je vais vous donner maintenant un temps de silence où vous pouvez écouter Dieu par rapport à ça, pour vous-même, mais pour la communauté aussi, dans son ensemble. Et vous pouvez ensuite répondre à Dieu dans votre cœur. Après quoi, Claude va faire une prière pour toute la communauté, au nom de la communauté. Seigneur, on veut se placer devant toi, dans l'humilité et dans la confiance. Et je te prie d'éclairer notre cœur. Est-ce qu'il y a des veaux d'or de notre vie personnelle? Est-ce qu'il y a des veaux d'or de notre vie communautaire? Oui, parle-nous, Saint-Esprit. Parce que ce que nous voulons, c'est une porte grande ouverte. On veut qu'il n'y ait plus rien entre toi et nous. Permets-nous de discerner cela et de pouvoir ainsi nous repentir et de pouvoir entrer pleinement dans ta présence. Amen.
Chers frères et sœurs, suite à ce que nous avons entendu de Nicolas, vous savez que c'est assez solennel et je vous dis que j'aimerais que nous nous mettions debout, tous ensemble, toute l'Église se lève et que nous intercédions, demandant la grâce de Dieu et que nous déposions ensemble. Vous pouvez le faire, je pense que vous l'avez fait personnellement, nous pouvons le faire communautairement. Déposer notre impatience, notre amertume, notre orgueil, nos blessures, certains héritages ou séductions qui nous empêchent de voir la face de Dieu, qui remplace Dieu, toutes ces interfaces que nous avons mises entre nous et Dieu. Et Seigneur notre Dieu, j'aimerais te prier d'implorer ton pardon, ta grâce sur nous, sur notre communauté, afin que cette porte que nous avons vue fermée, qu'elle puisse s'ouvrir, et que cette ouverture, c'est toi Seigneur qui l'a fait, c'est toi qui as mis la clé dans la porte, et nous avons vu cette lumière de Christ, cette lumière qui vient éclairer nos cœurs, et qui vient enlever toutes ces impuretés que nous avons confessées maintenant. Et nous les confessons communautairement, Seigneur, viens purifier nos cœurs, viens purifier notre communauté, afin que nous puissions avancer et rayonner ton amour autour de nous. Tu connais nos cœurs et nos pensées. Nous te demandons vraiment, Seigneur, que cette Église puisse rayonner dans ce quartier que nous avons à cœur, afin que ton esprit, ta parole, ta puissance puissent intervenir et soient libérées au milieu de nous. Dieu notre Père, nous nous mettons à genoux devant toi et te demandons pardon. Et par la grâce du Christ qui a tout porté à la croix, nous croyons que tu nous as pardonné, tu nous as effacer toute notre dette. Tu n'as plus aucun souvenir de cela, de toutes ces imperfections que nous tirons depuis des années. Et Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin et te demandons pardon. Et nous croyons à ce pardon extraordinaire que tu donnes, sans condition, simplement que nous venions avec humilité. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous te demandons, Père Céleste, cette grâce en Jésus-Christ, que tu nous conduises, que tu nous purifies, que tu nous gardes jour après jour, jusqu'à ton retour. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus, ton Fils qui a tout payé à la croix. Amen.
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 Merci.
Voilà, vous pouvez vous asseoir.
Je vais encore prier. Oui. Là, on peut passer. La deuxième étape, c'est d'intercéder pour que la présence de Dieu reviennent pleinement parmi nous. Je J'aimerais proposer Jean, Daniela. Est-ce que Esther, tu voudrais aussi prier, Esther Betz? Puis je conclurai. Merci beaucoup. Seigneur, tu as entendu nos prières, tu as entendu notre repentance, tu as entendu notre désir de ta présence, de ne plus avoir de choses qui la remplacent, mais d'avoir ta présence même dans nos vies. Viens puissamment parmi nous, résider parmi nous, tu es le bienvenu. Nous te faisons confiance, nous t'aimons. Au nom de Jésus, amen. Et maintenant, la dernière étape, je vous propose de la vivre au travers de la Sainte Cène. Cherchez la face de Christ.